9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Certes, la police et la gendarmerie, la morgue et l'institut médico-légal sont des services publics. Mais que dire du meurtre, du crime et autres disparitions inquiétantes? La question se pose quand on découvre la proportion que prennent les fictions policières sur le service public. Elles écrasent tout sur leur passage. 85% des fictions diffusées en première et deuxième partie de soirée en 2021 sur le service public étaient des fictions policières, plus de 8 sur 10, bien au-delà des taux des autres chaînes. À titre de comparaison, c'était seulement 11% sur TF1, 3% sur Arte et un petit pourcent sur M6. C'est le résultat le plus spectaculaire d'une étude publiée par l'Union des réalisatrices et des réalisateurs qui s'en alarment. Pourquoi cette inquiétude? Corollaire, ces chiffres ne sont-ils pas le résultat d'un appétit du public qui plébiscite ce genre? Question qu'on va poser à notre invité qui est en première ligne sur la question. Bonjour Laurent Jaoui.
Oui, bonjour.
Vous êtes scénariste et réalisateur, vous êtes le président de cette union des réalisatrices et réalisateurs, Ludezer, auteur de cette étude qui nous a passionnés. D'abord d'un mot, vous pouvez présenter cette union?
Oui, c'est un syndicat qui regroupe les réalisateurs de télévision, cinéma, animation, web.
Et quelle mission vous êtes fixée?
Quelle mission? C'est-à-dire qu'on a un constat qui est que la position du réalisateur s'affaiblit d'année en année, à tous les niveaux.
Au détriment des chaînes et des producteurs?
Au détriment des chaînes et des producteurs, tout à fait. Des diffuseurs en premier lieu, on va dire, et des producteurs ensuite. Et on a voulu concrétiser ce sentiment de malaise dans un syndicat qui puisse agir et dans des études qui puissent prouver d'où vient ce malaise.
Voilà, c'est pas notre sujet, mais on sent qu'il y a aussi une ambition de parité, puisque vous avez dit réalisatrice et réalisateur.
Oui, tout à fait. Voilà. C'est un des grands combats du moment, oui, tout à fait.
Alors, j'en arrive à cette étude que vous avez rendue publique sur l'état des lieux 2020-2021 autour de la réalisation de fiction. Quel était son but et comment avez-vous procédé?
Eh bien, on a dit qu'on devait avoir nos propres chiffres, donc on a fait quelque chose d'un peu tout bête, je dirais. On a accès à tout ce qui passe à l'antenne en prime et en seconde partie de soirée. Alors, c'est un petit peu un travail de fourmi, mais on a noté,
on additionne,
et ensuite on compare les chiffres et voilà, on fait l'analyse.
Alors, vous avez relevé, en 2021, c'était 884 unitaires et ou épisodes et 975 heures de programme. Alors, la semaine dernière, le genre policier avait encore les honneurs du prime time sur France Télévisions. Sur les 7 fictions diffusées, nous aussi, on a fait nos comptes, on en a compté 5 du genre policier, parmi lesquels Meurtre au paradis et Tandem, mais également Simon Coleman, César Wagner et Meurtre à Figeac. 3 séries pour 3 cadavres et 3 scènes de crime.
D'après les lividités cadavériques, le crime s'est déroulé cette nuit aux alentours d'une heure. Le corps comporte 2 traces de coups. Le premier derrière la tête, le deuxième sur la tempe.
Lequel a été mortel selon toi?
Bah, confirmé après l'autopsie, mais probablement celui à la tempe.
Je vous préviens, il fait une chaleur là-dedans. Hein. Le mec est mort depuis un paquet de temps. Hein. Je vous raconte pas l'état. Le type, il avait monté le chauffage à fond. Je crois que l'Afrique lui manquait. Hein.
Un étranger?
Ah non, un médecin. Humanitaire. Il rentrait du Congo, je crois.
La scène des crimes n'est pas ici.
Bien vu. Le décès remonte à plus de 10 heures.
Cause du décès?
En commençant à déballer le colis, j'aurais dit asphyxie. À cause de ça, que j'ai trouvé dans sa bouche. Et aussi du fait qu'on est totalement obstrué ses voies respiratoires.
Ouais, c'était notre petit medley scène de crime, on aurait pu en rajouter.
Oui, tout à fait. Je me suis toujours dit qu'on pourrait faire un montage, par exemple, d'une semaine ou d'un mois de fiction policière et de passer d'une scène à une autre sans qu'on s'en rende vraiment compte, parce qu'on se retrouve toujours dans la même situation avec deux enquêteurs qui s'opposent. Voilà.
Pour ne pas vous donner tort, on a remarqué cette incroyable uniformité de toutes ces séries qui démarrent toutes par une scène de crime en ouverture d'épisode. Alors, parmi les chiffres que vous révélez, celui qui a beaucoup été repris, qui nous a interpellés, concerne donc la fiction à France Télévisions. Vous révélez que 85% des fictions diffusées en première et deuxième partie de soirée sur le service public étaient des fictions policières. Ma question, c'était que si vous avez voulu catégoriser les fictions par genre, est-ce que c'était parce que vous anticipiez un tel résultat?
Oui, tout à fait. En fait, c'est pas un constat nouveau. C'est le CSA l'a pointé en 2017 dans son rapport, en 2019 dans son rapport. C'est pas un constat nouveau. D'ailleurs, en 2019, ils ont dit ah c'est bien parce que oui, il y a toujours autant de policiers, mais en fait maintenant il y a des genres différents. Et nous, on a on a répondu au CSA. Enfin non, c'est encore plus inquiétant en fait, parce qu'avant il y avait effectivement un film historique sans crime, et maintenant France Télévisions a dit ah mais si on mettait un crime dans le film historique, ou si on mettait un crime dans la comédie sentimentale. Donc en fait le crime a contaminé les autres genres. Donc c'est pas du tout un constat positif à ce niveau-là.
Comme si TF1 avait mis un crime dans Camping Paradis, puisqu'on entendait Laurent Ronac qui sera ce soir sur TF1 pour la 100e. Je cite TF1 à dessein, la chaîne historique des Julie Lescaut et des Navarro, elle ne comptabilise que 11% de fiction à caractère policier. C'est un peu contre-intuitif. Comment vous expliquez ça?
C'est complètement contre-intuitif. Non seulement c'est contre-intuitif, mais ça c'est une surprise. C'était autant on anticipait d'avoir des chiffres élevés, parce qu'on le sait depuis assez longtemps sur le service public, autant on ne s'attendait pas du tout à ce que les autres chaînes soient diversifiées. Mais ça pose une question, parce qu'en fait, quand on parle de policiers, effectivement, on dit « il cartonne, ça fait plein d'audience ». Donc on pourrait dire que c'est un argument pour une chaîne privée qui est bien plus obsédée normalement, qui devrait être bien plus obsédée par l'audimat qu'une chaîne publique. Donc la chaîne publique pourrait dire « regardez, c'est que comme ça qu'on fait de l'audience, donc regardez les privés ». Mais si les chaînes privées arrivent à faire de l'audimat sans mettre de crime, ça questionne quand même le service public. Donc c'est pas une fatalité pour faire de l'audience que de mettre des crimes.
Pour être totalement complet sur TF1, je dois dire que leur plus gros carton est cette comédie policière HPI. C'est aux alentours de 8 millions de téléspectateurs devant l'épisode final, ce qui est absolument prodigieux. Et c'est, alors, oui, on peut dire que c'est un autre genre de policier, mais il y a quand même une enquête policière.
Oui, tout à fait. Non, c'est d'ailleurs sur le même modèle, HPI, c'est pas...
Alors, si on reprend les audiences que Louise Bernard nous donne tous les matins, on peut observer les incroyables scores des fictions policières sur le service public. La semaine dernière, sur les 5 séries policières diffusées sur le service public, 4 ont été premières des audiences. Mardi, c'était Tandem sur France 3, 4,1 millions. Mercredi, Simon Coleman sur la 2, 4,3 millions. Vendredi, César Wagner sur France 2, 3,2 millions. C'était une rediff. Et samedi, Meurtre à Figeac, avec Stéphane Plaza qui arrivait de la 6 sur la 3, 4,3 millions. Alors, en même temps, je vais me faire l'avocat des gens qui les programment. Si France Télévisions produit beaucoup de fiction policière, c'est que les Français ont un appétit pour. En quoi cela vous dérange-t-il? Est-ce que c'est pas là la définition du service public qui consiste à faire plaisir au public?
Alors, c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs quand on les interroge pourquoi est-ce qu'il y a autant de fiction. Ils nous disent écoutez, c'est facile à écrire, ça coûte pas cher et on cartonne avec. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas? En même temps,
depuis le temps que j'entends des critiques contre le service public, je me souviens il y a une vingtaine d'années, on reprochait au service public de pas faire d'audience. Maintenant que le public est là, on lui reproche de faire de l'audience.
Non, mais en même temps, je sais pas, par exemple, McDo, les gens adorent au McDo. Est-ce que ça voudrait dire que puisque les gens adorent au McDo et que McDo marche vachement bien, on va mettre que du McDo à bouffer? Voilà, je veux dire, est-ce que le service public, son seul critère, c'est l'audimat? À mon avis, ça, pour les chaînes privées, on peut tout à fait le comprendre. Pour le service public, ça, c'est plus problématique quand même.
Vous allez évidemment plus loin, parce que Laurent Jaoui, vous ne critiquez pas en soi les policiers, vous dites que ça contamine les autres genres. De quelle manière Culture Média continue? À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Avec Laurent Jaoui, c'est le président de l'U2R, président de l'Union des réalisatrices et réalisateurs. On parle de ces chiffres que vous avez révélés, c'était l'an passé, sur les fictions diffusées en première et deuxième partie de soirée sur le service public. 85% étaient des fictions policières. À titre de comparaison, les autres chaînes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. 11% sur TF1, 3% sur Arte, un petit pourcent sur M6. Vous incluez aussi les fictions américaines. C'est pas seulement les fictions françaises.
Ouais, enfin, tout ce qui passe à l'antenne.
Vous regrettez que le polar, ces fictions policières, contaminent les autres genres. Comment ça se concrétise dans les scénarios et pourquoi cela vous contrarie, cela vous inquiète peut-être même?
Ça se concrétise parce qu'en fait, quand un producteur va voir une chaîne, il arrive avec un sujet et la chaîne lui dit « Ah, c'est bien ce sujet sur les speakerines, par exemple, c'est super, on aime bien, vraiment, on a vraiment envie de faire. Mais si tu pouvais nous mettre un meurtre, ce sera encore mieux, vraiment, ça, on sera plus sûr d'avoir plus de spectateurs. » Donc, dit « Ah bon, d'accord, c'était pas prévu, comment il va voir ses scénaristes, dit « Comment est-ce qu'on pourrait mettre un meurtre dans cette histoire-là » Voilà. Sur un grand orchestre, c'est pareil. Il y a des réalisateurs ou des auteurs qui refusent, on leur dit « Voilà, on a tel sujet sur... Les femmes de ménage et on aimerait avoir un meurtre et dit bon bah non c'est bah non parce que moi en fait mon film il parle pas de ça. Donc voilà, ça se passe comme ça sur une demande de la chaîne qui est acceptée ou refusée.
Il y a beaucoup de polars, notamment le polar néo-réaliste, qui se sert du crime comme d'un prétexte et qui lui sert à décrire un milieu. C'est pas le plus important quand vous lisez Deninx, l'enquête c'est pas le plus important. Ce qui compte c'est la description.
Le polar c'est un genre génial en lui-même. Enfin je veux dire c'est effectivement le problème c'est pas tellement que d'abord c'est la dose qui fait le poison, comme disait Paracels.
C'est magnifique, je connaissais
pas. Voilà. C'est-à-dire que oui, le polar c'est génial, mais s'il n'y a plus que ça, ça devient un peu embêtant. Mmh. Et ensuite, si tous les polars se ressemblent, que les scènes, qu'on peut prévoir la scène suivante parce qu'elle va ressembler. Par exemple, pour les acteurs, j'entendais dans vos essais, imaginez ces acteurs qui viennent. Enfin, un acteur, il a envie d'exprimer plein de choses. Et il va dire, ah oui, mais alors elle est morte de quoi? Et sa tête, elle ressemble à quoi? Et qu'est-ce qu'elle a mangé la veille? Enfin, pour un acteur, c'est pas hyper passionnant quand même. Comme voilà, donc c'est vous savez, Jean-Louis Trintignant est mort. Le pauvre, s'il avait fait que toute sa vie dire mon Dieu, à quelle heure remonte
la mort. Raison. Mais puisque vous parlez des acteurs, me vient en tête. On parlait de HPI. Audrey Fleurot, c'est au-delà du polar. On se dit pas tiens, c'est une enquêtrice. La prof, ça s'appelle HPI, haut potentiel intellectuel. On voit une fille très intelligente qui est femme de ménage et qui résout des enquêtes. Si on prend la star du polar sur France Télévisions, qui est Capitaine Marlowe, Corinne Maziero, elle en fait un autre personnage qu'une gendarmette.
Oui, heureusement...
C'est son personnage qui existe. Et l'enquête, elle est presque subalterne.
Non, heureusement qu'il y a des acteurs qui arrivent à transcender, mais quand on regarde la structure de HPI ou de Marlowe, ça ressemble à la structure du meurtre à côté ou du meurtre avant, ou même les structures d'ailleurs, parce que là, on n'en a pas parlé, mais des Access Prime Time. Quand on regarde Plus belle la vie, Demain nous appartient, etc., c'est pareil. On retrouve les mêmes scènes avec qui a tué qui fait quoi. Enfin, je veux dire, on a l'impression on est dans un jour sans fin, en fait.
Et on a même parfois l'impression que tout est tourné dans la même ville parce que tout est tourné dans le sud pour des raisons de météo et donc on a l'impression qu'on est tout le temps dans le même. Vous parlez d'uniformisation, il y a aussi celle peut-être des décisions prises à France Télévisions car dans votre étude vous remettez en cause l'organisation interne avec une direction de la fiction commune à toutes les chaînes du service public. Pour quelles raisons?
C'est-à-dire que depuis des années et des années, mais ça remonte bien avant, on disait pour avoir une diversité à l'antenne, il faut une diversité de décideurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un a tel goût, on va lui proposer plutôt tel projet, quelqu'un a tel autre goût, plutôt tel projet. Donc à la fin, sur la BBC, chaque producteur de la BBC à l'intérieur est responsable de ce qu'il va mettre à l'antenne.
Chaque producteur, j'ai expliqué comment ça se passait auparavant. Auparavant, il y avait par exemple la 2 et la 3, pour faire très simple. Il y avait le patron des sports, le patron de l'info, le patron de la fiction. Et puis à l'époque, il n'y avait que des mecs. Et puis après, il y avait le patron des sports, de la fiction et de l'info sur la 3. Et là, ça a été uniformisé. Il y a un patron, une patronne de l'info, en l'occurrence, c'est Laurent Guigné, qui s'occupe des chaînes de service public. Il y a une patronne de la fiction qui est Enol Metz. Pourquoi ça vous dérange que ce soit uniformisé, non pas que ce soit telle ou telle personne?
C'est-à-dire que nous, on demandait plus de ce qu'on appelle des guichets, c'est-à-dire plus de personnes différentes à qui proposer. Quand on n'en avait que deux, on avait France 2 et France 3. Et en fait, maintenant, on n'en a plus qu'une. Donc, en fait, ce qu'on craignait arrive, c'est-à-dire que le goût d'une personne, quelle que soit cette personne, ça n'a rien à voir avec Anne, enfin, c'est pas une question de personne.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit.
Mais le goût d'une personne influence sur l'ensemble de la fiction.
Est-ce que les réalisateurs...
Et là, attendez juste une question.
Allez-y.
La fiction de France Télévisions, c'est 78% des heures de fiction que les gens peuvent voir à l'antenne. Donc c'est énorme en fait, en termes de volume par rapport aux autres chaînes.
Concrètement, une fois qu'on a fait ce constat, que demandez-vous?
Concrètement, une réaction. Voilà, nous on fait le constat, on dit voilà, ce qu'on demande depuis très longtemps, c'est d'avoir des guichets multiples, ça on le demande depuis des années et des années. Est-ce qu'un jour on sera entendu? Je ne sais pas, mais voilà, notre demande, elle n'a pas varié, en fait.
Quel sera votre prochain projet? Parce que là, on parle de votre travail à la tête de l'Union des réalisatrices et réalisateurs, mais vous êtes également réalisateur.
Oui, je suis réalisateur.
Prochain projet, ça va être quoi? Ça va être un policier?
Dans le prochain projet, je travaille sur un documentaire en Ukraine qui s'appelle Soldats de l'information, sur comment est-ce qu'on fabrique l'information en Ukraine en ce moment pour lutter contre l'information en Russie. Et justement, je vais rebondir toujours sur le même sujet quelque part, c'est que je pense que les politiques en général et souvent le milieu intellectuel ne prend pas vraiment la conscience d'à quel point il y a un impact de la télévision sur l'ensemble de la population.
Expliquez.
C'est-à-dire que, par exemple, comme je travaille justement sur Soldats de l'information, quand on regarde la télévision russe, par exemple, comment est-ce qu'une télévision peut, fasciner tout un peuple pour lui expliquer que sa guerre est juste, alors qu'une guerre qui est totalement injuste, et comment le peuple russe arrive à être encore derrière Poutine, simplement parce qu'il regarde la télévision.
Je vous réponds d'un mot, par la censure. Mais il n'y a pas de censure en France, en tout cas pas sur l'info.
Oui, il n'y a pas de censure parce qu'on a une télévision aujourd'hui qui est forte et indépendante.
Bien sûr.
Un service public. Demain, c'est plus risqué puisque maintenant on va supprimer la redevance. Est-ce que la télévision aura le même degré d'indépendance demain et le même degré de moyens?
Il restera toutefois les chaînes privées. Vous ne pouvez pas comparer comme ça la France avec la Russie, qui est une semi-dictature.
Non, mais les chaînes privées dans l'autre sens. Quand on regardait les années Berlusconi, par exemple.
En Italie.
Voilà, en Italie. Quand on regardait les années Berlusconi, quand c'était justement le tout privé, quand le privé a contaminé, je dirais, le service public, et qu'à la RAI, on mettait des femmes avec des gros seins partout, etc. On a vu aussi l'impact que ça a eu sur la population italienne, sur un abaissement de la démocratie. Donc le privé n'est pas du tout une solution.
Tout d'un coup, je réalise, vous parlez du guichet unique, TF1 et M6. Vont fusionner. Réaction ?
Mais bien sûr, on va malheureusement toujours dans le sens de plus de concentration, et voilà, bien sûr.
Merci beaucoup Laurent Jaoui, je rappelle que vous êtes président de l'Union des réalisatrices et réalisateurs LU2R. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, on va s'intéresser à un documentaire stupéfiant, c'est le nom de cette case, de cette collection, l'histoire française des Rolling Stones. Ils ont 60 ans les Stones, mais ils ont un rapport très particulier avec notre pays. C'est ce que nous disent Raphaël Bayot et Élise Lebivic. Elles arrivent dans ce studio. Culture Média continue, à tout de suite.
Philippe Vandel,
Culture Média, sur Europe.